Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté les deux premières heures, franchement, à partir de midi, allez sur le podcast 2 heures de feu avec la Ligue 2, avec Christophe Galtier qui ne sera pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avec l'ambiance à Roland-Garros et le public français. N'hésitez pas, précipitez-vous sur le podcast. Toujours avec Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour des Français à Roland-Garros. Le bilan des tricolores est-il pire que prévu? Et puis 11h30, Igor Tudor a claqué la porte de l'OM cette semaine. Usé, le coach croate n'a pas voulu rempiler pour une deuxième saison. Est-ce une catastrophe ou une bénédiction pour l'Olympique de Marseille? Et puis nous allons vous parler, nous serons en direct d'Ajaccio, des violences qui ont éclaté hier entre les supporters d'Ajaccio et de l'Olympique de Marseille. Le maire de la ville a demandé tout simplement l'annulation de la rencontre. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr et à partir de 11h30. Avant de parler de Roland-Garros, un retour sur ce qui s'est passé en Ligue 2. La dernière journée a viré au drama hier soir. À l'heure où nous nous parlons, Le Havre est en Ligue 1. Metz devrait monter. Reste à savoir si le match Bordeaux-Rodez sera rejoué. Les Girondins n'ont que 3 points de retard sur les Messins. La commission de discipline va se saisir de ce dossier lundi. En ce qui concerne la lutte pour le maintien, Rodez est pour l'instant 17e, donc premier relégable. Mais pourrait avoir match gagné sur tapis vert contre Bordeaux. Si c'est le cas, c'est Annecy qui se retrouve 17e, donc en national. Le président d'Annecy, Sébastien Faraglia, est de nouveau avec nous. Nous avons tenté la liaison à 9h30. C'était compliqué, mais il a tenu son engagement et sa parole. Il est avec nous dans les grandes gueules du sport. Bonjour président, rebonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. Votre réaction à ce scénario catastrophe pour vous, car il y a encore quelques journées, quelques jours, on pouvait difficilement imaginer votre équipe en national.
C'est une 38e journée un peu improbable qui d'ailleurs est toujours pas terminée, donc on va patienter pour voir comment la commission de discipline statue les incidents de Bordeaux, mais c'est un scénario un peu fou. Ouais.
Vous demandez quoi, président, ce matin en direct sur RMC? J'imagine que le match soit rejoué. Pour vous, ce serait la meilleure opération.
Moi, si vous voulez, je demande rien de particulier. Je veux juste que l'équité sportive soit respectée. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, à la fin de la 38e journée, on a 45 points. Ces 45 points, on les a gagnés sur le terrain. Et dernièrement, avec un très gros match à domicile contre Bordeaux, les 3 points contre Bordeaux, on est allé les chercher sur le terrain. Donc, si Rodez doit se sauver devant nous parce qu'il tape Bordeaux, pourquoi pas? Mais il va falloir qu'il gagne ses 3 points sur le terrain. On peut pas donner 3 points à Rodez à la 23e minute de jeu et plier le championnat comme ça. À la fois pour nous, à la fois pour Bordeaux, c'est pas possible.
Point sur le classement, Annecy est 16e, 45 points pour l'instant avec un match en retard. Donc, Rodez, 17e, 43 points. Donc, en cas de victoire sur tapis vert ou de victoire tout court de Rodez, eh bien, Rodez passerait devant Annecy. Denis, tu avais une question?
Non, j'ai une question. Les joueurs, ils sont sous contrat jusqu'à quand, vos joueurs?
Nos joueurs, ils sont sous contrat jusqu'au 30 juin. Certains avaient des prolongations indexées sur un maintien en Ligue 2. Enfin bon, on devait rentrer en discussion avec l'ensemble du groupe là aujourd'hui, demain, comme l'ensemble des clubs, hein, j'imagine. Vous imaginez bien que l'ensemble de ces discussions sont reportées attente de la fin de saison.
Ouais, parce que passer en national, ça change tout dans la gestion d'un club.
Mais j'imagine que vos pauvres joueurs veulent rester absolument en des deux.
Bien sûr, non mais tout le monde sait, ça fait 10 ans qu'on bosse sur un projet. On n'imagine pas une seconde que notre projet soit revu à la baisse en national sur une décision, sur un match perdu sur tapis vert. Non, c'est pas possible. Le sort d'Annecy ne peut pas dépendre d'un tapis vert sur Bordeaux-Rodez.
Et comment avez-vous vécu cette soirée? Parce que le match entre Bordeaux et Rodez a été interrompu, arrêté assez tôt dans la soirée. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez analysé la situation à ce moment-là?
Si vous voulez, on était bien loin du multiplex. On était focus sur notre match. On savait qu'on avait notre destin en main, qu'il fallait soit gagner, soit faire un nul. Déjà,
avez perdu sur la pelouse du Parc
Boissé. Voilà, c'était le point de départ. Donc déjà nous, on n'a pas été au rendez-vous de cette dernière journée. Bon, après, c'est vrai que notre situation pouvait dépendre des autres. Alors bon, vous avez Pau qui gagne chez lui en infériorité numérique, il faut les féliciter. Laval qui revient du bout du monde à la 94e minute, c'est pareil, il faut les féliciter. Valenciennes nous passe devant au goal à virage, différence de but, au bénéfice d'une super victoire au Havre, il faut aussi les féliciter. Mais moi je suis prêt à dire bravo à Rodez, mais il faut qu'ils gagnent leur match sur le terrain. Et puis, ça sera l'heure du bilan à ce moment-là. Mais à l'heure où je vous parle, c'est pas possible. Si le championnat s'arrête à la 23e minute, on a un point de plus, on est sauvé. Puis on en parle plus.
Et vous avez vous envisagez de saisir la justice si la justice sportive ne décide.
Là, si vous voulez, on se parle, on attend la décision de la commission. Mais il est évident que l'ensemble des actionnaires du club vont pas rester plantés dans leur salon si une décision sur tapis vert était en notre défaveur. C'est pas possible. Le sort de notre saison ne peut pas être lié à ça, c'est pas possible.
Est-ce que quand vous avez vu la réaction, et ça a beaucoup fait parler, même sur ce plateau, et je l'ai suffisamment répété sur cette agression du joueur de Rodez, on ne condamne pas la réaction, on ne condamne pas la blessure, il faut condamner le geste. Ça, on est bien d'accord. Mais est-ce que, quelque part dans votre esprit, vous vous êtes dit, ok, bon, toute cette histoire, ça arrange bien Rodez?
Moi, je vous rejoins. Ce qui s'est passé à Bordeaux, ça doit pas arriver. C'est condamnable. Ça sera certainement condamné. Je veux dire. Mais encore une fois, le sort d'Annecy peut pas être lié à un idiot du parc des supporters de Bordeaux. C'est pas possible. Alors après, les images, vous les avez vues comme moi. Bon, chacun fera son appréciation sur ces images-là. Vous savez, nous à Rodez, quand on va jouer à Rodez, on a un joueur qui sort sur civière avec une fracture de la cheville, 8 mois d'indisponibilité, et le joueur de Rodez a même pas pris un carton jaune. Voilà. Bon, j'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Je veux dire, il y a un match qui a été arrêté. Est-ce qu'il aurait dû reprendre? J'en sais rien. Est-ce qu'il doit se rejouer? J'en suis convaincu pour l'équité sportive. Après, c'est la commission qui tranchera. Et si effectivement ça va pas dans le sens du bon sens et de l'équité sportive, eh ben on fera les actions nécessaires pour défendre nos droits. Puis voilà. On n'en est pas là. Il faut laisser les instances faire leur boulot et puis on verra bien ce moment-là.
Sébastien Faraglia était avec nous en direct sur RMC. On a compris le message du président d'Annecy. Il faut que ce match se joue. Il faut qu'il y ait une équité sportive. Merci beaucoup, président, d'avoir été en direct avec nous sur RMC. Et félicitations tout de même pour cette saison, car on rappelle qu'Annecy est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe de France, notamment après cette magnifique victoire face à l'Olympique de Marseille. On reprend le cours de cette émission et cette citation de Léonard de Vinci qui a dit un jour, d'une chose légère peut naître un grand désastre.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Côté français, l'élimination de Diane Paris face à une pépitruse vraiment.
Fais-moi voir ta gueule de guerrier. Chef, t'as une gueule de guerrier.
Malheureusement, le ciel est bien sombre. Élimination de Lucas Pouille, battu sèchement par Cameron Norrie.
Et comme si ça ne suffisait pas, Gaël Monfils, qui devait jouer aujourd'hui son deuxième tour en Ice Session, a déclaré forfait.
Ah, ça c'est une gueule de guerrier. Là, fais-moi voir ta gueule de guerrier. Ah, mon cul.
Sortie sous les applaudissements du cours Suzanne Lenglen, Arthur Hinderknecht, 78e mondial, était la dernière chance française.
Autant dire que tu m'as pas convaincu, fais-moi voir ta vraie gueule de guerrier. Tu me fais pas peur.
Après, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Ils étaient 28 au départ de cette édition 2023. Ils sont zéro. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Plus de Français à Roland. Balle perdue à Roland.
Ambiance de la blouse.
Le temps de Yannick Noah.
Attention, les secousses.
Et loin. Merci Stephen Brun. Ils étaient 28 sur la ligne de départ, vous l'avez entendu. Ils sont 28 à la maison. Pour la deuxième fois en 3 ans, aucun Français n'a réussi à atteindre le 3e tour de Roland-Garros. C'est la pire édition des internationaux de France depuis le début de l'ère Open en 1968. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le bilan des Français à Roland. Est-ce pire que prévu? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Non.
Stephen Brun?
Non.
Denis Charvet?
Non.
J'ai un oui avec Christophe Cessieux. J'arrive dans quelques instants avant de débattre. On va donc retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salure. Rebonjour Eric.
Rebonjour.
Salut Eric.
Fais-nous revivre, j'ai envie de dire, la semaine des Français. Enfin, la semaine.
Tu veux vraiment?
La semaine, je suis un petit peu cavalier, les quelques jours.
Oui. Allez, on y va. Dimanche,
21h28. Résident quasi exclusif du cours 14 où la franchise est 3 tours de qualif, Lucas Pouille écarte de nouveau l'Autrichien Rodionov. Première victoire en chelem depuis l'US Open 2019. Le nordiste, à deux doigts de brûler ses raquettes l'été dernier, n'avait jamais connu une telle ambiance.
Ouais, c'est un peu irréel. Mais voilà, de vivre ces émotions-là, ben, on a envie d'en profiter à fond. Les gens sont là, ils donnent 1000%. J'ai pas arrêté d'entendre. On a attendu toute la journée pour te voir. On est là pour toi. On est là pour toi. Voilà, ça fait chaud au cœur et.
Lundi 29 mai, 14h39, opposé à Cameron Norrie sur le Langlen. Benoît permet 4-2 au 5e set avant de craquer à la fois physiquement et mentalement. C'était déjà sur ce court en 2019 qu'il avait raté le japonais Nishikori.
Il y avait quelque chose à faire et c'est vrai que pourquoi, ben, peut-être que je pense trop, mais je peux pas m'empêcher de penser. Peut-être qu'il faut être un petit peu bête parfois pour jouer au tennis, mais en tout cas, moi, c'est difficile dans ces moments-là. Je me pose des questions, je change un petit peu ma façon de jouer, de servir, je regrette beaucoup de choses.
17h59, fraîchement titré à Lyon, Arthur Fils n'a pas eu beaucoup de récupération avant d'affronter David Huitfeldt. L'Espagnol s'impose en 4-7. L'Estonien rêvait de crever l'écran à Roland. Ce sera pour l'an prochain. 19h22, Caroline Garcia se fait violence pour arracher le succès face à la chinoise Xinhu Wang. Les stats ne sont pas fameuses, mais on se dit que c'est le stress de l'entrée en lice.
C'était un gros premier tour. Ça s'est joué à quelques points par-ci par-là. C'est une joueuse qui a des qualités et qui produit un bon jeu agressif. Donc il a fallu réussir à rester calme et saisir le peu d'occasions que j'ai eu.
Mardi, minuit 20. Night session de folie entre Sébastien Baez et Gaël Monfils. Mené 4-0 au dernier set. Touché physiquement, le Parisien songe alors qu'il n'a jamais remporté un match en tant que papa. La remontada appartient à la légende.
J'ai une rupture partielle du TFCC, du poignet gauche. Je le montre pas trop, mais il y a plus que la déception parce que il m'en reste combien des Roland ? C'est surtout ça la vraie question. Je viens d'apprendre la nouvelle finalement il y a 30 minutes, hein, donc je vous dis c'est tout frais, donc pour l'instant je digère, on va dire.
Mercredi 31 mai, 16h01, emportée par le vent et ses démons intérieurs, Caroline Garcia sauve 8 balles de match face à Binkova, mais un utile mace de la Russe plonge la Lyonnaise dans un profond désarroi, le cauchemar absolu. 19h26, usé par son aventure extraordinaire, Lucas Pouille paie la note face à Cameron Norrie, il va retrouver une place dans le top 400 et se dit prêt à repartir sur le circuit Challenger. 23h20, dans mon lit en train d'écouter Jeannot Rességuier en pleine prolongation de Séville-Roma, je suis alerté par une notification WhatsApp. Mon fils CP1 now, ça veut dire que le français est annoncé en conférence de presse, forfait acté, vous venez d'entendre le son. Et puis, hier soir, jeudi 23h03, pardon, dernier représentant tricolore, Arthur Rinderknecht enflamme le Langlen pendant 45 minutes, mais Taylor Fritz n'est pas top 10 pour rien, malgré un public hostile. L'Américain réduit au silence la foule, balle tragique à Roland, 28 victimes en 5 jours, l'amertume du tricolore est palpable.
J'avais envie de leur donner ce cinquième. Je le touchais du doigt, je l'avais dans la raquette. C'était après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes. Bon, bah t'es le dernier Français, t'as intérêt à gagner. J'ai fait le max. J'en étais conscient. J'aurais aimé être le dernier Français en demi ou en quart ou en huitième, comme on l'a souvent été. Bon, c'était un deuxième tour malheureusement.
Voilà, on a eu nos lots d'émotions, mais la gueule de bois, elle est quand même bien sévère.
Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous pour ce débat. Le bilan des Français à Roland, Espire que prévu. C'est oui pour Christophe Cessieux. Pourquoi
il m'a
oui
déprimé Eric, il m'a déprimé. C'est vrai qu'on n'attendait pas de miracle de la part des Français. Mais là franchement en termes de médiocrité, je pense qu'on a été servi. Espérer qu'un Français ou une Française atteigne la deuxième semaine et nous fasse frissonner en deuxième semaine, il y a belle lurette qu'on a abandonné cet espoir et qu'on en a fait le deuil. Mais ne plus avoir aucun représentant dès le jeudi soir, je pense qu'on est en train de franchir un cap supplémentaire. À ce rythme-là, l'année prochaine, on n'aura plus personne le mardi soir, c'est-à-dire à l'issue du premier tour. Parce que d'année en année, c'est de pire en pire. De temps en temps, il y avait quand même un Français qui, en première semaine, arrivait à nous faire vivre. Là, on a vibré deux fois au cours de la semaine. Effectivement, le premier tour de Gaël Monfils, c'est un incroyable match, mais on est au premier tour du tournoi quand même. On n'est pas en quart de finale, en huitième de finale. Il y a eu aussi Lucas Pouille, sa qualification, parce que oui, il est passé par les qualifs pour aller dans le grand tableau. C'était énorme. Mais ok, mais c'est vraiment, c'est très très mince tout ça. C'est très très mince. C'est pas digne d'une nation telle que la France, qui fait partie des grandes nations du tennis mondial, qui a un tournoi du Grand Chelem et qui, grâce à ce tournoi du Grand Chelem, est une des fédérations de tennis les plus riches de la planète. Et avec tout cet argent, toute cette manne, on n'arrive pas à former des mecs qui sont capables de passer deux tours à Roland Garros. Vous trouvez ça normal? Je trouve pas ça normal. On nous dit qu'on est dans un trou de génération, mais ça fait combien d'années qu'on est dans ce trou de génération? Et quand est-ce qu'on va en sortir, qu'on va mettre la tête hors de l'eau de ce trou de génération? Pourquoi, alors qu'on a des installations incroyables, on en parlait avec Sarah tout à l'heure, Jean-René Lisnard ou Mouratoglou qui sont sur la Côte d'Azur, pourquoi ils n'arrivent pas à former ou pourquoi les Français ne vont pas dans ces centres-là?
Mais c'est le talent. Tu t'oublies un truc, une chose, il y a le talent, il n'y a pas que le mental, il y a le talent.
Mais pourquoi il y a autant de talent aujourd'hui? De Bélarus, d'Ukrainiens qui ont du talent. Parce qu'ils ont la
Mais quoi, les Russes, ils ont
Ils gagnent Roland Garros, les Russes. Ils sont avec une cuillère d'argent dans la bouche, tout va bien pour eux. Une cuillère d'argent.
Non, mais c'est trop simple de taper sur le tennis français comme ça. Bon, pour moi, c'est trop simple. Parce qu'on a l'impression d'entendre que le tennis français ne cherche pas des solutions depuis des années.
Sarah
est mieux placée que moi pour en parler. Mais je pense depuis des années, j'entends le même discours. Même Yannick Noah s'est proposé plein de fois auprès de la fédération pour donner ses services.
En vain, il est vrai. Les anciens vrais champions, ceux qui ont gagné pour former cette jeune génération.
Il s'est proposé, Yannick, il a fait des opérations. Mais c'est pas si simple. D'ailleurs, c'est là où je peux pas te rejoindre. Tu dis c'est pas pire, mais non, mais on s'attendait très bien que le ce résultat-là. On n'est pas étonné quand même.
Mais Denis, on a eu un trou de génération aussi dans le rugby français, mais derrière c'est reparti. Là, on n'a pas l'impression que ça repart. Oui, il y a Arthur Fils, il y a Under.
Mais laisse les pousser les jeunes. Après, il y a toujours des espoirs. Aujourd'hui, ils sont trop tendres. J'ai l'impression qu'il y a trop.
Alcaraz, il a quel âge?
Oui, mais tu parles d'un génie qui arrive. Là.
Bah oui, mais il y a des génies partout dans tous les pays, sauf chez nous, quoi.
Non, il y en a pas dans tous les pays.
Nadal, c'est vrai qu'il y en a eu des.
Derrière, il y a eu Alcaraz.
Oui. Sarah, vous avez, et Stéphane, vous allez pouvoir intervenir. C'était la semaine dernière. Écoutez Yannick Noah sur notre mentalité française. Je trouve que c'est passionnant quand on l'écoute.
C'est possible d'aller loin en étant français, mais c'est plus difficile quand t'es français d'être champion. Donc il faut aller un peu te nourrir ailleurs, parce que nous on est habitué à perdre. Mais à tous les niveaux, on est habitué à perdre. Enfin, tous les entraîneurs ont tous perdu. Il n'y en a pas un qui a gagné. Donc tu es entouré de gens qui ont tous perdu. Et quand tu gagnes, tu te dis mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas.
Stéphane, c'est bon constat? On est habitué à perdre.
Non, je sais pas. Après, s'il veut des entraîneurs qui ont gagné, il n'y en a pas beaucoup en France, en fait.
Oui, mais tu ne parles pas qu'en France.
Ah, donc tu veux récupérer des entraîneurs étrangers?
Mais pourquoi pas?
On en a eu. Gabriel Urpi est venu entraîner les joueuses françaises et la fédération a pris Ivan Ljubicic. Donc, un entraîneur qui gagne, un joueur qui a gagné. Mais tu peux mettre toutes les choses à disposition des joueurs, comme le disait fort justement Nicolas Escudé, parce qu'il faut faire un bilan malheureusement d'une déception catastrophique. On pouvait pas s'attendre à mieux. On n'a qu'une seule joueuse, hommes et femmes confondus, qui est tête de série. Donc forcément, on peut pas s'attendre. C'est-à-dire que pour passer le troisième tour, il faut forcément battre une tête de série. Oui. Donc en fait, il n'y a pas eu de surprise.
C'est ça.
Il n'y a aucune surprise.
T'en as normalement
Oui. Belles histoires qui effectivement se nourrissent de Roland Garros. On se souvient d'Hugo Gaston qui effectivement a fait une campagne en 2020 qui nous a fait rêver. Ce qui pose le constat aujourd'hui qu'on est loin du compte, c'est que la génération du milieu, elle tient pas son rang en fait. Tu as toujours dans une fédération, tu as ceux qui brillent et puis tu as cette génération du milieu qui doit entretenir et qui doit être là en masse. Et on a des joueurs qui entre 22 et 26 ans, la terre battue c'est pas leur surface. Donc c'est pas évident de faire des surprises à Roland Garros. Ouais,
évident, mais en France quand même, on est un pays de terre battue quand même, non?
On n'est plus du tout un pays.
Ton seul grand chelem, c'est sur terre battue.
Oui, mais c'est compliqué de jouer sur terre battue en France.
Donc ça veut dire qu'on s'y prépare pas. On a un grand chelem en France sur terre battue, on s'y prépare pas.
Il y a 17% de cours en terre battue en France contre 75%
en Espagne. Je voulais juste finir ma petite démonstration, c'est qu'on a des joueurs qui peuvent faire battre des têtes de série dans des grands chelems, mais ce sont des joueurs de surface rapide. Hugo Humbert le dit fort justement, même s'il vient de gagner deux challengers sur terre battue. Arthur Hinderknecht, c'est un joueur qui est plutôt serveur-volleyeur. Tu as Adrian Manarino, un peu plus vieux. Effectivement, c'est pas sa surface. Et tu as un Lucas Pouille qui, voilà, qui est monté très haut et qui s'est un petit peu brûlé les ailes et qui aujourd'hui essaie de retrouver de l'énergie pour repartir au combat. Mais ça,
il gagne pas quand même sur les autres surfaces, ça va.
Bon, si, ah, t'as quand même.
Il était pas mal sur un.
Mais en tout cas, ils sont plus performants sur d'autres surfaces. Okay. Ils sont capables d'aller battre des têtes de série sur d'autres surfaces.
On prépare pas. On a Roland Garros tous les ans sur terre battue. On ne prépare aucun joueur à la terre battue. On l'avait compris. Mais me parlez pas.
Pas dit ça.
Mais surtout, c'est moi qui ai dit. Mais juste me parlez pas d'âge quand même, hein, parce que Rude, Runeux.
Mais oui.
Sinner,
ils sont jeunes, tu veux dire.
Ils sont tous jeunes. Alcaraz, ils sont tous jeunes, mais c'est jamais.
Oui, mais sur des talents. Les talents, t'en as pas partout.
Mais chez nous, c'est pas notre faute si on n'a pas.
Oui.
On l'a au foot avec Kylian Mbappé, on l'a au basket avec Victor Wembanyama, donc on l'a pas
raison.
Fait, désolé, mais on les a eu dans d'autres sports. Donc on n'est pas non plus, on peut pas être touché par la grâce de Dieu sur tous les sports. J'y sais. Les Espagnols au tennis, ils sont touchés par ça, bah bravo à eux. Maintenant,
moi, c'est juste une question d'intervention divine, quoi.
Bah non, mais d'abord.
Peut-être aussi un petit peu de travail.
Non, mais... Un petit peu de travail, mais à un moment donné, il faut des prédispositions.
Mon fils, il a
deux ans, et je vais lui mettre une raquette dans la main pendant 15 ans. S'il n'a pas le don pour le tennis, il va pas gagner Roland Garros.
Mais il y a quand même des moyens de détection, il y a quand même des formateurs.
Mais toi, tu le font pas, ça? Franchement,
mais c'est trop complexe. Enfin, c'est trop complexe aujourd'hui de se dire je vais sortir un champion qui va gagner un grand chelem. Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour formater un garçon pour être champion de tennis.
Pourquoi tous les pays de l'Est arrivent à sortir, notamment en tennis féminin, arrivent à sortir autant de championnes?
Mais demande à Sarah.
Pourquoi nous on n'y arrive pas?
Parce
qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix pour se sortir dans la vie aussi.
Exactement.
Et que nous, il y a peut-être un certain confort.
Elles n'évoluent pas dans leur pays d'origine. Généralement, oui, elles partent dans d'autres structures pour pouvoir s'épanouir. Mais effectivement, c'est une question de talent
ou de mentalité.
Les deux. Mais aujourd'hui, quand je vois la vraie déception de Roland Garros, c'est Caroline Garcia. Il faut qu'on parle de Caroline Garcia, parce que je pense que ça aurait pu être un sujet complet. Caroline Garcia, qui est aujourd'hui cinquième mondiale, et que ce classement fait briller et miroiter des choses, alors que son niveau de jeu est très loin de cette cinquième place mondiale. Aujourd'hui, Caroline Garcia, en 2017 ou 2018, elle a eu deux bons mois où elle gagne Cincinnati, je crois, et un tournoi en Asie, et elle est quatrième mondiale. Et elle a eu deux bons mois fin 2022 où elle fait demi-finale à l'US Open, elle gagne le Masters. Et elle est aussi dans le 4 mondial. Mais aujourd'hui, c'est une calamité avoir joué Caroline Garcia. Oui, et je comprends pas comment un mec. Alors aujourd'hui, le tennis est un sport paradoxal parce que ton entraîneur, tes préparateurs sont rémunérés par la joueuse. Mais il n'y a pas un mec un jour, pour le bien de Caroline Garcia, qui va accepter peut-être de se faire virer, mais de lui dire, écoute, Caroline Garcia, tu ne peux pas jouer au tennis de cette façon-là. Il faut changer des choses, c'est pas possible. Et Caroline Garcia, elle prend la pression du tennis français parce qu'elle est cinquième mondiale. Elle a ce chiffre, numéro 5. C'est un super classement et dont on attend d'elle.
Elle a essayé de changer des choses.
Hein?
Elle a réussi un temps, mais après,
elle a pris plusieurs entraîneurs,
des options,
qui sont revenus.
Tu vas pas être. Mais bon,
vous l'avez vu jouer,
donc. C'est sévère.
En tout cas, si j'ai bien compris, vous tombez pas de l'armoire avec, zéro français au troisième tour, zéro français évidemment en huitième, et bon, la deuxième semaine, on repassera. Parfait. Vous suivez évidemment Roland Garros sur notre radio digitale. Allez télécharger sur l'application RMC et toute la journée avec nos envoyés spéciaux Eric Salio et Anthony Reich. On revient dans quelques instant, il y a Daniel qui veut réagir sur le débat tennis, le débat du public français. Il a un coup de gueule à passer, c'est dans quelques instants, juste après cette courte pause. Et puis nous parlerons de l'Olympique de Marseille avec des débordements entre des supporters d'Ajaccio et de l'OM. Toutes les dernières informations dans quelques instants avant le match de ce soir, 38e journée de Ligue 1. A tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h30.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet. Une émission extrêmement animée. Le débat caché, c'était sur le public français. Est-il allé trop loin? Le public de Roland Garros en sifflant Taylor Fritz ou d'autres joueurs qui n'étaient pas des joueurs français. Daniel Riolo voulait absolument réagir à ce débat. Bonjour Daniel.
Salut JC, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vas-y, les GG t'écoutent.
Globalement, je n'aime pas quand on mélange les sports et quand on se sert des autres sports pour expliquer comment on doit fonctionner un sport. Effectivement, Denis Charvet, vu que son sport ne cesse de se renier ces dernières années, joue des matchs à domicile à 500 km de la maison. change de couleur de maillot sans arrêt. Moi, je pensais que c'était un sport de valeur, un sport de culture. Eux, visiblement, ils aiment le changement permanent. Tant mieux pour eux, tant pis pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand j'entends qu'on veut faire des analogies entre le foot et le tennis, je suis désolé, vous pensez réellement qu'en ce moment, le football est un sport qui peut donner un exemple à qui que ce soit? Au moment où des supporters sont enfermés sur une plage parce qu'ils sont allés tout casser dans une ville, au moment où hier un abruti est rentré sur une pelouse pour bousculer un joueur de l'équipe adverse et ça fout tout un championnat en l'air, on se demande comment la saison va se terminer. Réellement, le football en ce moment peut donner un exemple. Cette semaine, on a eu un entraîneur qui a agressé un arbitre sur un parking et il faut aller chercher de la culture d'un autre sport. Mais franchement, j'ai absolument pas compris ces arguments que j'ai entendus pendant une demi-heure tout à l'heure. Alors, pour terminer, je n'ai rien contre ce qu'a fait le public contre Taylor Fritz. J'adore quand ça a lieu à l'US Open, quand ça se déroule à l'Australian Open également. Aucun problème, peut-être un peu moins quand on siffle à l'entrée des joueurs. Je pense que dans le tennis, on fait pas ça et on a le droit d'être continué à être bien élevé dans le tennis. Et quand on couvre l'interview de fin de match, de la même façon que j'avais trouvé ça pas terrible à l'US Open pour Medvedev, j'ai pas trouvé ça bien avec Taylor Fritz. Après, pendant qu'on soutienne de façon exagérée un joueur français comme on soutient les Américains ou les Australiens en Australie, ça, j'ai aucun problème avec ça. Pour le reste, le tennis, c'est un sport qui, il me semble, a assez d'histoire, assez de culture, assez de grands champions pour qu'on respecte sa culture. Heureusement que Sarah, tout à l'heure, s'est un petit peu battue pour expliquer que les sons, les bruits et le silence, c'est quelque chose d'important. Je vous invite à lire une interview récente d'Ivan Lendl, et je ne sais plus quel autre champion expliquait que quand on joue au tennis, le bruit, c'est extrêmement important. Le bruit de la balle quand on est en face, le champion expliquait, c'est pas à mon niveau, donc moi je ne fonctionne pas comme ça, mais j'imagine qu'un grand champion peut fonctionner comme ça. Il disait, le bruit de la balle, quand j'entends l'impact dans la raquette de l'adversaire, je sais quel genre de balle va arriver. C'est extrêmement important. C'est culturel, le silence dans notre sport, dans le tennis. Pourquoi on ne respecterait pas cette culture? Okay. À côté de ça, aucun problème pour qu'on soutienne les joueurs et qu'effectivement, on décrispe un peu le tennis et qu'ils soient un peu moins engoncés dans ce silence historique qu'il a toujours eu. Mais pas tout le temps. On ne doit pas tout casser. On ne doit pas casser tous les codes. On doit maintenir quelque chose qui est très propre à ce sport, à savoir sa culture. Et dans cette culture-là, il y a également le silence dans les échanges.
Eh bien, moi, je pense... Alors, tu sais, il y a un tournoi de golf où il y a un ou deux trous.
C'est à Phoenix.
À Phoenix, où justement, il mélange un peu tout. C'est-à-dire que sur ces deux trous...
Ne fais pas la comparaison entre deux sports.
Oui, fais gaffe. Ne comprends pas, parce que moi, je suis en balle de rugby, sinon. Et dans la culture du silence, comme le tennis, tu dois respecter les joueurs. Le silence se fait au moment où...
Quand ils se mettent à l'adresse.
Et là, sur ces... Tu m'as trouvé une exception, on est content.
Exactement. En fait, c'est ça. C'est qu'il y ait des exceptions, c'est une chose, mais on peut pas en faire une règle, en fait. Qui est des exceptions parce que tu vas jouer dans un pays où effectivement les gens sont beaucoup plus bruyants. Tu vas pas trouver la même ambiance à Wimbledon qu'à l'US Open. La culture est différente. Mais n'en faisons pas une règle. Ne cherchez pas à en faire une règle.
Parce que c'est dans la culture, on change rien.
Non. Essayez sur certains tournois, pourquoi pas, de laisser les gens.
Mais c'est ce qui se passe à l'US Open. Tu peux te promener, tu peux arriver avec ton burger, mais parce que t'es à 150 mètres au-dessus du court. Donc tu gênes pas le jeu. Tu gênes pas le jeu. Le cours, il est 10 fois plus grand que celui de Roland.
Rapidement, Daniel, le mot de la fin.
L'US Open, pendant des années, les 4 tournois du Grand Chelem avaient leur particularité. Et c'est ce qui fait la force et l'histoire de ce jeu. L'US Open, effectivement, c'était des gens à qui on reprochait pas forcément de se lever. C'est Borg qui a jamais pu gagner là-bas, justement parce que les conditions lui étaient pas favorables. Et ça, c'est historique. Tous les amoureux de tennis se souviennent de la particularité de l'US Open. Wimbledon, Sarah le sait, parce qu'elle y est allée. Je vous invite un jour à cette expérience, entrer dans le stade de Wimbledon. Eh bien moi, cette culture-là, j'ai pas envie qu'elle bouge. Le silence de Wimbledon, le bruit des balles sur l'herbe, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Moi, on me l'avait raconté 1000 fois, je pensais que c'était exagéré. Eh bien le jour où j'ai mis les pieds dans ce stade-là, j'ai regardé la personne qui m'en avait fait des caisses pendant une semaine, je lui ai dit que tu avais raison. Ça, j'ai pas envie que ça change. J'ai pas envie que ça devienne un bordel permanent pendant les échanges, que les gens hurlent. Voilà. Respectons les cultures de chaque sport et arrêtez de vouloir faire votre bazar complet.
Mais on peut évoluer, Daniel, on peut évoluer aussi.
On relancera le débat. Daniel, sache que le bazar, c'est notre priorité dans les grandes gueules du sport et on est là pour ça. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Daniel.
Vous venez tous en blanc avec des chaussures blanches.
Et on se retrouve très vite. Dans
son écoute, Daniel, on ne peut pas évoluer, quoi. Il a parlé de rugby.
On relance.
Mais non, on ne peut pas relancer. D'accord.
Et après, il va vouloir te répondre tout ça.
Non, mais en plus de débat.
Il faut qu'il vienne dans les grandes gueules, un peu, qu'il vienne s'asseoir autour de la table.
Avec grand plaisir. Daniel, tu sais très bien, tu es invité quand tu veux dans cette émission. On va passer à un autre sujet parce que Daniel y a fait référence quand il a parlé de supporters bloqués sur une plage. C'est ce qui se passe en ce moment à Ajaccio où des supporters de l'OM sont encadrés par les forces de l'ordre car hier soir des violences ont éclaté entre les supporters de la ville corse et les supporters de l'Olympique de Marseille. Le maire demande l'annulation de la rencontre. Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial, est avec nous. Salut Nicolas.
Salut à tous, salut tout le monde.
Oui, ça va être un match extrêmement tendu qui va se disputer ce soir à 21h entre Ajaccio et l'OM.
Oui, exactement. Alors, on a vu ces images d'affrontements dans les rues d'Ajaccio hier soir. On les a vues sur le site RMC Sport. On vous raconte ça depuis ce matin. Ce que l'on peut vous dire, c'est que depuis ce matin, 7h, les premiers supporters de l'OM sont arrivés par bateau à Ajaccio. Ils sont environ 200 pour le moment. Ils seront rejoints par plusieurs centaines d'autres supporters. Et pour le moment, ils sont parqués sur la plage du Ricante. La plage du Ricante, c'est celle quand vous arrivez de l'aéroport d'Ajaccio. Et elle est à proximité du stade François Coty, le stade de l'AC Ajaccio, et pour le moment ils sont sur cette plage, parqués par les forces de l'ordre. Un très gros dispositif de forces de l'ordre est présent autour des supporters de l'Olympique de Marseille. À l'instant T, ce que l'on peut aussi vous dire, c'est que la rencontre entre l'ACA et l'Olympique de Marseille est bien maintenue. Le maire de la ville a demandé son report, mais sa demande devrait rester sans suite selon nos informations. Mais ce qui présente un petit risque pour les policiers que l'on a pu contacter ce matin, les policiers ajacciens, c'est l'acheminement des supporters marseillais vers le stade François Coty. Ça peut représenter un moment hautement sensible parce que pour bien connaître le secteur, il n'y a qu'une seule route pour arriver au stade François Coty. Et donc, ça peut représenter un moment hautement sensible ce soir avant le match entre l'OM et l'AC Ajaccio.
Cette fameuse montée pour se diriger vers le stade. Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Évidemment, toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr. Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu notre reporter, le match ne devrait pas être annulé. Pourtant, votre maire, le maire d'Ajaccio, le demande. Est-ce que ça vous déçoit? Est-ce que vous demandez fermement de nouveau l'annulation de la rencontre?
Alors, le maire a demandé hier, pendant les événements, deux choses pour resituer la chronologie des faits. Quand les incidents ont éclaté, de graves incidents, pendant une soirée en plus très festive, puisque nous fêtons les cérémonies de la Saint-Érasme et la fête des pêcheurs à Ajaccio, qui est une fête très importante, le maire a d'abord essayé de détourner le bateau qui arrivait ce matin avec 500 supporters marseillais, puisque quelques dizaines étaient déjà sur Ajaccio hier soir, et on a vu ce que ça a donné, et dans la foulée, d'essayer d'annuler le match, à partir du moment où on pouvait bloquer le bateau. Donc, bien entendu, qu'à l'instant que tout cela a été écarté par les autorités, tout comme d'ailleurs le maire avait demandé et avait écrit au préfet de région dès la semaine dernière pour demander l'interdiction de déplacement des supporters marseillais pour un match qui était sans enjeu, mais où les services de sécurité nous avaient informé, avaient manifesté leur inquiétude et avaient bien précisé qu'il y avait de graves risques de troubles à l'ordre public pour le match de ce soir. Donc voilà la chronologie. Donc à l'instant T, le sujet, c'est moins l'annulation du match, puisque les supporters, comme votre reporter l'a bien précisé, sont arrivés, le gros des troupes est arrivé ce matin sur Ajaccio et repartiront seulement demain soir, et que le préfet, dans la nuit, a pris un nouvel arrêté pour définir une phase zone et parquer jusqu'au match de ce soir ces supporters qui sont même pas arrivés à cheminer en car ou autre, puisque la plupart sont à pied. Certains n'ont pas de logement prévu pour la nuit et ne repartent que demain soir. C'est tout cela qui avait conduit le maire à demander l'interdiction de déplacement. Tout cela en plus qui était le week-end de festivités très importantes et où les forces de l'ordre, les services municipaux étaient déjà grandement mobilisés
pour la fête des pêcheurs et les cérémonies de la Saint-Pérasme.
Les incidents d'hier soir ont fait 4 blessés légers. Est-ce que vous êtes inquiet encore aujourd'hui ?
Nous sommes très inquiets. Nous sommes en mairie, en cellule de crise. Nous avons passé quasiment toute la nuit en ville et ensuite à réfléchir aux voies et moyens d'éviter une nouvelle nuit d'échauffourée. Il y a des femmes, des hommes qui ont été blessés, des chefs d'entreprise, des établissements qui ont été cassés. Donc, bien entendu, la préoccupation, l'unique préoccupation du maire et de l'exécutif municipal, et je pense de l'ensemble des pouvoirs publics, est de protéger les personnes et les biens. Jusqu'à demain, fin de journée en plus. Hein. Donc on est encore loin de...
Du départ des Marseillais.
Exactement.
Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, est avec nous en direct pour revenir sur les violences d'hier soir entre supporters d'Ajaccio et supporters de l'Olympique de Marseille. Une dernière question. Vous avez dit, on vous a entendu, que vous aviez fait la demande, en tout cas le maire a fait la demande au préfet de faire une interdiction de supporters, comme ça se passe sur beaucoup de matchs de Ligue 1. Est-ce que ça vous choque que ça n'ait pas été respecté, que votre volonté n'ait pas trouvé... n'est pas trouvé une oreille.
Oui, complètement. Ça nous choque. On est d'ailleurs le maire et la majorité municipale va se réunir dans quelques heures. Et oui, bien entendu, nous sommes extrêmement déçus. Je pense que il faut quand même respecter les élus locaux, un maire d'une ville qui ses élus qui sont au contact de la population et qui font de leur mieux pour tous les jours, on le sait hein, sur d'autres sujets d'actualité, les élus locaux sont exposés, et bien entendu que toute la saison, et vous en avez parlé, je vous suis régulièrement, toute la saison a été malheureusement, toute la saison de Ligue 1 a été rythmée par des incidents, mais il y a plusieurs arrêtés préfectoraux qui ont été pris d'interdiction de déplacement. J'ai écrit au directeur cabinet de M. le préfet la semaine dernière, jeudi dernier, en lui demandant, eu égard aux renseignements des services de police et des renseignements territoriaux qui nous ont alertés en nous disant il y a des risques de troubles à l'ordre public. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit, redit, nous l'avons demandé, nous avons demandé à ce ministre à l'Intérieur prenne ses responsabilités et interdise ce déplacement parce que nous avions plus une 3 jours de festivités très importants et qu'il y avait des risques manifestes à l'ordre public. Oui, nous sommes choqués. Oui, nous regrettons et oui, nous nous réservons le droit d'intenter des actions parce que voilà, on ne peut pas accepter tous les risques qui ce qu'on a vu hier soir en ville. Et Dieu merci, nous avons évité le pire. Nous avons évité le pire aussi grâce à des. Alors il y a des supporters irresponsables, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, de supporters ajacciens qu'on connaît personnellement et qui nous ont aidés à calmer, à extraire. Et à essayer de temporiser. Et si la nuit a ensuite été plus paisible, je tiens aussi à remercier. Il ne faut pas stigmatiser. Et il y a beaucoup de jeunes ajacciens et de moins jeunes qui ont aidé et qui avaient conscience des risques et de la difficulté de la situation. Donc le maire appelle au calme pour ce soir et à la responsabilité de chacun et des pouvoirs publics en premier lieu. Parce que voilà, nous sommes encore dans une situation très tendue et inquiétante.
Eh bien, le message est passé. On retiendra que vous êtes choqué, mais que vous ne demandez plus l'annulation de la rencontre. Merci Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, d'avoir été en direct avec nous dans les grandes gueules du sport pour voilà essayer, tenter d'expliquer et de vous expliquer, chers auditeurs, cette situation à Ajaccio avant Ajaccio OM, 38e journée de Ligue 1 à suivre en direct en intégralité sur RMC. 11h49, on se retrouve pour quelques instants avec vous, les auditeurs, le 32. Pour réagir à cette émission extrêmement mouvementée. Je pourrais même oser le tumultueuse. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h52 de retour dans les grandes gueules du sport avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet. À partir de midi, les paris RMC autour de la 38e journée de Ligue 1. On va vous donner toutes les cotes des matchs à enjeu. Mais tout de suite, les auditeurs, c'est à vous de jouer.
RMC, les grandes gueules du sport. Et vous ?
Une émission extrêmement dense, vous l'avez bien compris. Donc nous n'allons prendre qu'un auditeur. C'est Frédéric qui nous appelle pour nous parler de tennis. Salut Frédéric.
Bonjour, oui, je voulais parler de tennis. Ça me rendait un peu fou parce que je pense que le problème vient surtout de la détection et de la formation. Moi, j'ai ma fille qui joue au tennis et je le vois très bien. On a eu la chance qu'elle s'entraîne en Ukraine avant le conflit et en France. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est surtout au niveau... La détection chez eux se passe par des tests physiques et par rapport aussi au physique. Qu'en France, je vois que avant tout, c'est ce qui prime, c'est l'aspect financier, les parents qui peuvent payer des cours particuliers et sur leurs gamins. Et on demande après aux gamins de déscolariser en France, de déscolariser les enfants passés par le CNED ou Academia, et avec des entraînements que les après-midi, alors que les gamins en Ukraine sont arrivés à 10-12 ans, font déjà du bi-quotidien. Et sur la masse, évidemment, ils arrivent à sortir un champion. Voilà. C'est surtout ça la grosse différence.
Je vais demander à Sarah. Sarah, t'es d'accord avec ce constat de Frédéric? On n'est pas bon sur la détection.
Non. On a un système de détection qui est exemplaire puisqu'on a des clubs de tennis qui sont pilotés par la fédération avec des enseignants à qui on demande un certain nombre de choses pour détecter. Donc je peux pas vous laisser dire ça et je peux pas vous laisser dire que le diktat est par l'argent. Aujourd'hui, l'avantage du tournoi de Roland-Garros, c'est que tous les clubs de tennis, toutes les ligues bénéficient des bénéfices de Roland-Garros. Tous avons bénéficié de Roland-Garros pour pouvoir jouer, pour avoir des bourses. Après, si vous voulez donner plus de choses à votre enfant, c'est un sport individuel où on peut effectivement prendre des cours supplémentaires. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'aujourd'hui, on joue au tennis uniquement parce qu'on a de l'argent.
Rapidement, la réponse de Frédéric, tout de même.
Non, Sarah, le souci qu'il y a, c'est un aspect financier. Moi, je vois, tu as des coachs qui prennent entre 30 et 50 euros de l'heure. Ils viennent même pas voir leurs athlètes sur un match de tennis. Et ça, je peux te le prouver quand tu veux, Sarah. Le système sur la détection, si les parents, moi j'ai vu ma fille jouer avec une petite gamine, je t'assure, elle avait tout, mais les parents n'avaient pas l'aspect financier pour payer des cours particuliers derrière, parce que c'est le cours particulier derrière qui fait avancer ton enfant. Et c'est une gamine, je pense, qui aurait pu arriver à haut niveau, les qualités physiques qu'elle avait, une main de fou, mais les parents ont dû arrêter parce que ils n'avaient pas le côté financier pour que leur enfant devienne bonne.
Ok. Moi, merci Frédéric pour ce témoignage. Pardonne-moi, on est un peu pris par le temps, mais merci en tout cas de ta fidélité. Merci Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Stephen Brun, Denis Charvet pour cette énorme émission. N'hésitez pas à aller la réécouter en podcast avec notamment la Ligue 2 ou encore Christophe Galtier qui ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr. Tout de suite, les Paris RMC autour de la 38e journée de Ligue 1 et on se retrouve évidemment pour de nouvelles grandes gueules du sport pour débriefer cette Ligue 1 demain à 9h. Allez, salut.
RMC, les grandes gueules du sport.